de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal mardi 2 novembre 2021. Voici les titres. La Chine ferme Disneyland en raison du coronavirus. Pour la première fois pendant la pandémie, l'Australie ouvre ses frontières internationales. La Thaïlande accueille la première arrivée des touristes étrangers sans quarantaine. Dépassant l'objectif de vaccination COVID-19, le Cambodge est prêt à vivre une nouvelle vie. Chers amis, voici le journal complet. Disneyland à Shanghai a été fermé lundi en raison d'un cas d'infection par le coronavirus. Les fermetures interviennent alors que les autorités chinoises poursuivent leur stratégie de zéro infection avant les Jeux olympiques d'hiver. Les autorités chinoises ont réussi à contenir la propagation de la plupart des cas nationaux pendant la pandémie, mais l'augmentation de ces dernières semaines a mis à l'épreuve la détermination de Pékin à éliminer la COVID-19. Il y a eu 92 nouveaux cas de COVID-19, signalé lundi, le chiffre le plus élevé depuis la mi-septembre. L'Australie a ouvert lundi ses frontières internationales pour la première fois pendant la pandémie de COVID-19. La politique rend les citoyens qui ont été vaccinés libres de voyager. À l'aéroport de Sydney, les gens avaient l'air heureux après avoir rencontré leurs proches. Après 18 mois de restrictions COVID-19 les plus strictes dans le monde, des millions d'Australiens sont désormais libres de voyager sans permis ni quarantaine à leurs arrivées dans le pays. L'ouverture des frontières est toujours illimitée aux citoyens australiens et aux résidents permanents et aussi à leurs familles. Mais la politique a mis en branle des plans pour ouvrir l'Australie aux touristes et aux travailleurs étrangers indispensables à la reprise économique. Les passagers du premier vol en provenance de Singapour et de Los Angeles sont arrivés à Sydney lundi matin. Des centaines de touristes étrangers qui avaient déjà reçu le vaccin COVID-19 sont arrivés à Bangkok lundi, le premier lot en 18 mois à ne pas avoir à subir de quarantaine. Dans un effort pour relancer l'économie du tourisme qui a été touchée par la pandémie, le gouvernement thaïlandais a donné son feu vert aux touristes recevant le vaccin COVID-19 de plus de 60 pays, dont les États-Unis et la Chine. Un certain nombre de pays européens est également inclus dans la liste parce que les autorités espèrent profiter des touristes de l'hémisphère nord qui veulent éviter l'hiver. La Thaïlande est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Asie-Pacifique, applique des règles d'entrée strictes pendant 18 mois. Cette règle a suscité des critiques dans l'industrie du voyage pour être trop restrictif et lourde. Le premier ministre cambodgien Hun Sen a déclaré que son pays était rouvert et prêt à vivre une nouvelle vie après le dépassement de l'objectif de vaccination contre la COVID-19. Le Cambodge devient l'un des pays avec le taux de vaccination le plus élevé d'Asie. Ce pays a vacciné près de 86% de ses plus de 16 millions d'habitants. 2 millions de personnes ont reçu le vaccin de rappel et 300 000 écoliers de 5 ans ont été vaccinés lundi. Le ratio du Cambodge est le même que celui de Singapour. Hun Sen a dit qu'il était temps de continuer la vie. Le Cambodge a signalé plus de 118 522 cas et 2788 décès dus à la COVID-19. La majorité est survenue cette année. Hun Sen a ajouté que le gouvernement dispose d'un stock de 10 millions de doses de vaccins COVID-19 à utiliser comme rappel et commande des vaccins supplémentaires. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président indonésien Ma'ruf Amin a souligné l'importance d'un filtrage strict des citoyens indonésiens et des ressortissants étrangers qui sont entrés en Indonésie au milieu de la crise pandémique actuelle de COVID-19. Le vice-président Ma'ruf Amin, lors d'une réunion limitée sur l'application des restrictions aux activités communautaires à Jakarta lundi, a déclaré que le dépistage visait à minimiser l'écart par rapport à l'entrée potentielle de la variante COVID-19 en Indonésie. En outre, le vice-président a appelé le public à mettre en œuvre des mesures d'atténuation contre la troisième vague potentielle de COVID-19 en Indonésie. Cette atténuation doit être renforcée en effectuant des tests, un suivi et une maintenance pour l'ensemble de la communauté. Concernant la vaccination, le vice-président espère que l'accélération de la livraison des vaccins COVID-19 aux personnes dans diverses régions sera bientôt réalisée. L'autorité d'investissement de l'Indonésie et DP World ont signé un accord d'alliance stratégique pour améliorer la qualité des services maritimes et logistiques en Indonésie avec une valeur de partenariat à long terme de 7,5 milliards de dollars américains. La collaboration entre l'autorité d'investissement de l'Indonésie et DP World est menée afin d'améliorer la qualité des opérations portuaires, de réduire les coûts logistiques et d'augmenter la compétitivité de l'Indonésie. Le président du conseil d'administration de l'autorité d'investissement de l'Indonésie, Rida Wirakusuma à Jakarta, a déclaré lundi que le secteur maritime et portuaire en Indonésie est la clé pour soutenir le commerce et la consommation interinsulaire. Plus tard, DP World apportera une technologie de classe mondiale pour le développement de nouveaux terminaux et d'autres actifs portuaires en Indonésie afin de créer de l'efficacité et d'augmenter le trafic inter-île et international. L'Indonésie est officiellement élue à la présidence du sommet du G20 en 2022. C'est également la première fois que l'Indonésie occupe ce poste. Il est prévu que le sommet du G20 de l'année prochaine se tiendra à Bali. La passation de la présidence a été effectuée lors de la session de clôture du sommet du G20 à Rome, l'Italie, qui s'est déroulée à la Nuvola dimanche. heure locale. Le ministre des Entreprises publiques, Eric Thohir, via son réseau social lundi, a déclaré que la nomination de l'Indonésie à la présidence du sommet du G20 était un élan pour montrer la croissance économique du pays. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et en pour le titre, l'engagement de l'Indonésie à lutter contre le changement climatique à la COP26. Le président Joko Widodo a expliqué qu'avec son riche potentiel naturel, l'Indonésie continue de contribuer à la gestion du changement climatique. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo lors d'un discours au sommet des dirigeants mondiaux sur le changement climatique, ou COP26, au Scottish Event Campus à Glasgow, en Écosse, lundi le 1er novembre. Il a ajouté que le taux de déforestation a chuté de manière significative, le plus bas au cours des 20 dernières années. Les incendies de forêt ont diminué de 82% en 2020. À cette occasion, le président Joko Widodo a également souligné les actions concrètes qui ont été menées depuis la réhabilitation des forêts de mangrove avec un objectif de 600 000 hectares d'ici 2024 jusqu'à la réhabilitation de 3 millions de forêts critiques de 2010 à 2019. D'autres mesures prises par l'Indonésie sont le développement d'un écosystème de voitures électriques, la construction de la plus grande centrale solaire d'Asie du Sud-Est, l'utilisation d'énergies nouvelles et renouvelables, y compris les biocarburants et le développement d'industries basées sur l'énergie propre, ainsi que la construction de la plus grande zone industrielle verte du monde au nord de Kalimantan. Ce qui est intéressant dans ce que le président Joko Widodo a déclaré lors du sommet auquel ont participé près de 200 pays, c'est que le président Joko Widodo a fortement demandé quelle contribution et quel transfert de technologie les pays développés pourraient être partagés avec l'Indonésie. Il a également souligné la nécessité d'une action et d'une mise en œuvre concrète immédiate. L'action concrète doit être montrée immédiatement par toutes les parties. à diverses occasions. Cela a également été signalé par l'Indonésie aux dirigeants des pays développés, comme lors d'une réunion bilatérale avec les États-Unis. Le président Joe Biden, en marge du sommet de la COP26, tel que rapporté par VOA, le président Joe Biden a soutenu la proposition de l'Indonésie d'exhorter les pays riches à aider les pays pauvres à atténuer le changement climatique pour leur plan d'action climatique. La déclaration est la question divulguée par le président Joe Biden lors du sommet des dirigeants mondiaux sur le changement climatique sur la cohérence de l'engagement. L'Indonésie a travaillé dur pour respecter cet engagement d'atteindre son objectif de zéro émission d'ici 2060, pas seulement de la rhétorique, bien sûr, il ne peut pas fonctionner seul. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 novembre 1949, la signature de l'accord de la conférence de table ronde à La Haye par l'Indonésie et les Pays-Bas. Après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945, les Hollandais essayaient toujours de contrôler l'Indonésie. Divers efforts ont été faits par l'Indonésie pour devenir pleinement souverain.De la guérilla à la diplomatie. La conférence de la table ronde qui s'est tenue à La Haye aux Pays-Bas du 23 août au 2 novembre 1949 est devenue un effort diplomatique qui a réussi à libérer l'Indonésie des Pays-Bas. Cette conférence s'est terminée par la volonté des Pays-Bas de céder la souveraineté à la République des États-Unis d'Indonésie le 27 décembre 1949.La date de transfert de souveraineté par les Pays-Bas est également la date reconnue par les Pays-Bas comme date de l'indépendance de l'Indonésie. Ce n'est qu'environ 60 ans plus tard, le 15 août 2005, que le gouvernement néerlandais a officiellement reconnu que l'indépendance de facto de l'Indonésie avait commencé le 17 août 1945.Notre information est sur le premier président du Sud-Vietnam, Ngo Dinh Diem, est tué lors d'un coup d'état militaire le 2 novembre 1963. Le premier président du Sud-Vietnam, Ngo Dinh Diem, a régné de 1955 à 1963. Le gouvernement de Diem était autoritaire et népotiste. Les manifestations publiques de masse ont atteint leur apogée lorsque l'armée sous le général Duong Van Minh a renversé le gouvernement et exécuté le président Diem et son frère cadet Ngo Dinh Nu le 2 novembre 1963. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 novembre 1964. Le roi Saoud d'Arabie Saoudite a été évincé lors d'un coup d'état familial. Saoud ibn Abdul Al-Aziz Al-Saoud était roi d'Arabie Saoudite de 1953 au 2 novembre 1964. Tout au long de son règne, beaucoup de mécontentement a été exprimé par les membres de sa propre famille. Une lutte de pouvoir entre sa propre famille a eu lieu en 1964 avec le soutien du groupe des Ulémas. Après avoir été destitué, le roi Saoud vécut en exil à Athènes en Grèce et y mourut en 1969 à l'âge de 67 ans. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. Astaga, astaga, astaga.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée L'ambassadeur indonésien discutera de la coopération entre l'éducation et la défense avec les parties prenantes thaïlandaises. Vous êtes avec moi, Audrey. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume de Thaïlande, Rahmat Budiman, a rendu une visite d'honneur à plusieurs gouverneurs en Thaïlande, tels que le gouverneur Songkhla Jaruat Kliangklau, le gouverneur Satun Ekarat Lesen et d'autres lors d'une série de visites de travail du 25 au 28 octobre 2021. Au cours de l'entretien, l'ambassadeur Rahmat Budiman a déclaré que la proximité géographique et socioculturelle entre l'Indonésie et le sud de la Thaïlande est une capitale pour accroître la coopération entre l'Indonésie et la Thaïlande, notamment dans les provinces de Songkhla, Satun, Patani, Yala et Naratiwat. Selon lui, l'Indonésie est ouverte et prête à mener diverses coopérations dans les domaines économiques, socioculturels, éducatifs avec divers acteurs du sud de la Thaïlande. Comme cité sur la page kemlu.go.id, 31 octobre, l'ambassadeur Rahmat Budiman a expliqué que les modalités de la proximité géographique et des similitudes culturelles doivent être utilisées de manière optimale dans un effort pour réaliser la prospérité pour les peuples des deux pays. À cette occasion, l'ambassadeur a également confié à chaque gouverneur les citoyens indonésiens de la province, notamment un accès facile pour se faire vacciner contre la COVID-19. L'éducation est également un domaine de coopération qui a été souligné lors de la visite inaugurale de l'ambassadeur Rahmat Budiman dans le sud de la Thaïlande. Il y a 265 citoyens indonésiens vivant dans les cinq provinces, qui sont dominés par les étudiants. Pendant ce temps, 1400 étudiants du sud de la Thaïlande étudient dans diverses universités indonésiennes. À cette occasion, l'ambassadeur Rahmat Budiman, lors de sa rencontre avec des étudiants indonésiens de l'université Prince Songkhla et Patani et l'association des anciens étudiants Indonésie-Thaï, a également souligné que la coopération éducative peut être un pont pour améliorer les relations bilatérales, en particulier pour améliorer la qualité de la jeune génération de l'Indonésie et la Thaïlande, qui deviendront des leaders à l'avenir. En outre, l'ambassadeur indonésien en Thaïlande a également rencontré le commandant de la 4e région de l'armée, directeur du commandement des opérations de sécurité intérieure 4 ISOC, le lieutenant-général Kriyankai Srirak, pour obtenir une explication directe de la situation en matière de sécurité dans le sud de la Thaïlande et discuter des possibilités de coopération en matière de défense. À cette occasion, l'ambassadeur Rahmat Budiman a indiqué que la position de l'Indonésie respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Thaïlande dans la gestion de la situation dans le sud de la Thaïlande et que l'Indonésie est prête à partager ses expériences si nécessaire. L'ambassadeur Rahmat Budiman a également évoqué la visite du commandant de l'armée thaïlandaise, le général Apirat Konsompong, en Indonésie en 2020. Qui a exprimé son désir d'étudier la résolution des conflits comme Aceh. En réponse à ce cas, le lieutenant-général Kriyankai a réitéré le désir et la volonté de la Thaïlande de prendre du processus de résolution des conflits indonésiens afin d'établir la paix dans le sud de la Thaïlande. Bonjour Gitar, c'est tout mon Indonésie.
De Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel intitulé L'Umpatan, la façon d'attraper des poissons par la communauté de Empat Lawang. Le village de Terusan Lama, le district de Tebing Tinggi dans la région de Empat Lawang, a une activité annuelle unique sur la place de Terusan de la rivière Musi. Cette activité est connue sous le nom de Lumpatan. Dans la langue locale, Lumpatan signifie sauter. C'est une activité de coopération mutuelle menée ensemble pour attraper du poisson dans la rivière Musi. Cette activité est pratiquée une fois par an, généralement pendant la saison des pluies. Lumpatan est fait des bambous et des rotins qui est ensuite érigé au milieu de la rivière Musi dans le but que si l'eau est grande, le poisson sautera et se fera piéger. Lumpatan a une longueur d'environ 15 jusqu'à 20 mètres avec une largeur de 8 mètres où les poteaux sont plantés au fond de la rivière. Pour faire lumpatan, ça coûte beaucoup d'argent. Par conséquent, un lumpatan n'appartient pas à une seule famille, mais à un groupe de citoyens. Chaque groupe compte de 10 jusqu'à 15 personnes. Le processus de fabrication du lumpatan prend également beaucoup de temps, environ un mois. Dans le village de Terusan Lama, une dizaine de lumpatan sont généralement installés sur la rivière Musi. Lumpatan est installé pendant la saison des pluies, c'est-à-dire vers septembre, et laissé un certain temps pour attendre l'entrée des poissons. Il existe de nombreux types de poissons qui entrent dans la lumpatan, tels que le poisson blanc baung, le semah, le gegali, le chuang hidung, le lanpam, le poisson syak, le baung, le cengkak, le sengarat, le mutal et le dengi hitam. Les types de poissons que les gens obtiennent généralement des poissons baung blanc et des semah. Cependant, le plus commun est le poisson semah. Les poissons semah sont connus à Sunda sous le nom de poisson kancra, tambra à Java et sapan à Kalimantan. Une fois le poisson pêché, une partie de poisson sera cuit et apprécié ensemble par les résidents locaux. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Thank you.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Dimana letak halte bus terdekat ?»« Dimana letak halte bus terdekat ?»« Où est l'arrêt de bus le plus proche ?» Bonne écoute. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Di mana letak halte bus terdekat? Di mana letak halte bus terdekat? En français, où est l'arrêt de bus le plus proche? Cette conversation se déroule entre Kevin et l'employé de l'hôtel. Kevin a demandé des indications pour Jalan Asia Afrika depuis l'hôtel. Bonne écoute.
Di mana letak halte bus terdekat?
Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri.
Lurus, kemudian belok kiri.
Benar. Jaraknya hanya 500 meter dari sini.
Cher Jutard, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Di mana letak halte bus terdekat? Di mana letak halte bus terdekat? En français, où est l'arrêt de bus le plus proche? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Di mana, où? Letak se trouve. Haltebus, l'arrêt de bus. Terdekat, le plus proche. Jalan, rue. Lurus, tout droit. Belokiri, tournez à gauche. Kemudian, puis. Jaraknya, distance. 500, 500. Meter. Di mana letak halte bus terdekat? Di mana letak halte bus terdekat? Où se trouve l'arrêt bus le plus proche? Anda jalan saja lurus kemudian belok kiri. Anda jalan saja lurus kemudian belok kiri. Vous allez tout droit puis tournez à gauche. Lurus kemudian belok kiri. Tout droit et puis à gauche. Benar. Jaraknya hanya 500 meter dari sini. Benar, jaraknya hanya 500 meter dari sini. C'est correct. La distance est 500 mètres d'ici. Anjungan tunai mandiri. Guichet automatique. Tidak jauh dari sini. Paluang d'ici. Bagaimana cara ke toko swalayan? Comment se rendre au supermarché? Anda bisa menggunakan bus. Vous pouvez prendre l'autobus. Kemudian turun di halte bus swalayan. Et puis descendez à l'arrêt de bus de supermarché. Chers auditeurs, au cours d'une conversation, vous avez entendu l'employé de l'hôtel a dit Anda jalan saja, lurus, kemudian belok kiri. Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri. En français, vous allez tout droit, puis tournez à gauche. Dans la phrase, il y a une expression donne une direction de localisation. Lurus dan belok kiri. Lurus dan belok kiri. En français, tout droit et tournez à gauche. Outre cette expression, il y a aussi une expression donnant un indice de localisation comme jalan terus. En français, allez tout droit. Belok kanan, tournez à droite. Belok kiri, tournez à gauche. Pertigaan, intersection en T. Perempatan, carrefour. Bundaran, rond-point. Ces expressions sont généralement utilisées pour indiquer l'emplacement d'un objet. Maintenant, écoutons un autre exemple de l'expression donnant un indice de localisation. Di mana letak anjungan tunai mandiri, ATM, terdekat? Où se trouve le guichet automatique bancaire, ATM, le plus proche? Anda bisa berjalan terus. ATM berada tidak jauh dari sini. En français, vous pouvez continuer. L'ATM n'est pas loin d'ici. Bagaimana cara ke toko swalayan? En français, comment se rendre au supermarché? Anda bisa menggunakan bus, kemudian turun di halte bus swalayan. Anda bisa menggunakan bus, kemudian turun di halte bus swalayan. En français, vous pouvez prendre le bus, puis descendre à l'arrêt de bus supermarché. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Di mana letak halte bus terdekat?
Anda jalan saja lurus, kemudian belok kiri.
Lurus, kemudian belok kiri.
Benar, jaraknya hanya 500 meter dari sini.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'Indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Cette fois-ci, je vous donne une chanson malaise intitulée Siti Payung, chantée par Rosnida. Cette chanson raconte d'une personne s'appelle Siti Payung. Elle sait bien danser et chanter des rimes. Elle aime aussi broder. Les paroles disent que même si Siti Payung est une gardienne du roi, parfois, elle se sent malheureuse. Il existe plusieurs chansons malaises intitulées Siti Payung. Cette fois, nous vous donnons une chanson chantée par Rosnida. En plus des chansons malaises, Rosnida est une connue comme chanteuse de chansons minang. Bon, chers auditeurs, voici Siti Payung chantée par Rosnida. Bonne écoute.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.